Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme. Il lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Il reprit, « Qui t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « C'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » À la femme, il dit, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari et lui, il te dominera. » À l'homme, il dit, « Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, la terre sera maudite à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Elle fera pousser pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme appela sa femme du nom d'Ève, vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, « L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Que maintenant il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours. » Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les kéroubim et l'épée flamboyante qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de la vie.
Ce texte est pour la plupart d'entre nous très connu. Et il est d'une richesse et d'une profondeur exceptionnelle. Car il explique à lui seul le monde dans lequel nous vivons. Dieu créa au départ un monde qui était bon, un véritable paradis, sans maladie, sans souffrance, sans violence et sans conflit. Cependant, un événement a lieu et qui mène au dérèglement de notre monde. À partir de la désobéissance d'Adam et Ève et de la prise de conscience de leur nudité, plus rien ne sera comme avant. La nudité, étrange notion quand même quand on y pense. Je vous rassure, je ne suis pas en train de penser aux plages nudistes de France, mais quand même, quand on s'arrête, c'est une notion qui ne nous laisse pas indifférents. Elle peut peut-être nous paraître anachronique aujourd'hui. Il suffit de se promener et de balayer notre regard sur les différentes publicités qui s'offrent à nous pour comprendre que la nudité n'est plus un problème, ce n'est plus un tabou. C'est devenu totalement banal. Mais malgré cela, elle ne nous laisse pas indifférents. Et c'était le cas d'Adam et Ève. Ce texte va donc au-delà de la simple question de l'effeuillage du corps humain. Il traite de l'essence de l'homme, de ses craintes, de ses doutes, de ses aspirations. Il explique pourquoi les choses ne vont pas. Pendant très longtemps, j'ai eu du mal à comprendre cette notion de la nudité. Et c'est en lisant la révélation des origines d'Henri Blocher et en écoutant un message de Tim Keller que j'ai pu mieux saisir cette notion. Et je ferai référence à ces deux auteurs au cours de ce message. Que signifie donc la nudité dans notre texte? Pourquoi la question est-elle si importante? Et que révèle-t-elle sur l'état actuel de l'homme? Nous allons ce soir explorer la question en trois parties. Donc, le problème de la nudité, la solution de l'homme et la solution de Dieu. Au départ, la nudité d'Adam et Ève, comme nous venons de le lire, ne posait pas de problème. Ils éprouvaient une nudité, disons, insouciante. Il régnait une parfaite transparence, une parfaite harmonie dans tous leurs rapports. Et ce n'est qu'après avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils prirent conscience de leur nudité. C'est ce qui est écrit au verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Que signifie la nudité? Eh bien, ça signifie le fait d'être exposé, transparent, connu. Et donc, d'une certaine manière aussi, vulnérable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contrôler l'information que les autres peuvent avoir de nous. Nous sommes à découvert. Et c'est donc à partir du moment qu'Adam et Ève ont désobéi que leur nudité et leur vulnérabilité devint une expérience traumatique. Et ceci se voit par trois altérations qui nous touchent encore aujourd'hui. La première altération, c'est dans les relations humaines. On peut voir dans notre texte que le premier réflexe d'Adam et Ève est quoi? C'est de se cacher, de se protéger l'un de l'autre. Ils ont perdu leur pureté, ils se sentent désormais inadéquats, ils ont honte. Imaginez que vous êtes en train de dire du mal d'une personne et que vous ne savez pas que cette personne est juste derrière vous en train de vous écouter. Et d'un coup vous retournez, et vous vous rendez compte que cette personne était là dès le début. Quel est votre sentiment à ce moment-là? On essaye d'éviter le regard de l'autre. On se sent nu, on se sent à découvert, exposé. Pire encore, imaginez que quelqu'un puisse entendre toutes les pensées qui nous passent par l'esprit. Toutes les bêtises qu'on peut avoir à la seconde quand on voit quelqu'un ou qu'on veut commenter quelque chose. Ça serait l'enfer. Et ceci traduit un malaise qu'on ressent, c'est qu'on ne peut pas être transparent, réellement nous-mêmes, et être aimé. On ne peut pas être transparent, réellement nous-mêmes, et être aimé. Jean-Paul Sartre, le philosophe français, disait « L'enfer, c'est les autres ». Et il développe d'ailleurs ce thème dans un livre un peu indigeste qui s'appelle « L'être et le néant ». Je vais vous lire un petit extrait. « Autrui est un scandale, car je ne le fais pas exister, tandis qu'il a le pouvoir de me figer en un être vulgaire, fier, timide, que je ne suis pas. Le regard d'autrui m'expose, me rend faible et fragile, me rend objet pour lui. J'ai un dehors, j'ai une nature. » Ma chute originelle, c'est l'existence de l'autre. Et quelque part, c'est pour cela que nous cherchons constamment à cacher nos défauts, à contrôler l'image que nous projetons de nous-mêmes. Ce n'est pas étonnant que Facebook rencontre un tel succès. Nous y sommes maîtres de notre image. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on passe plusieurs heures à choisir la photo qu'on veut mettre, la belle citation qui va nous donner un petit côté un peu sophistiqué, intellectuel. Et surtout, surtout, on peut scruter les autres sans être vu en retour. La deuxième raison pour laquelle Adam et Ève se cachent l'un de l'autre, c'est parce que l'autre devient une menace. En décidant de manger du fruit, Adam et Ève se posent à la place de Dieu comme la référence ultime de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Et sans peut-être le vouloir, ils sont en train de déclarer qu'ils sont Dieu à la place de Dieu. Et quand on se proclame Dieu et que l'autre fait la même chose, ceci veut dire que l'autre devient aussi un Dieu rival, une menace. Et c'est pour cela que leur désobéissance affecte le sexe. Ils auraient pu peut-être cacher le visage, mais non, le texte parle d'une nudité sexuelle. Pourquoi ? Henri Blocher explique, il dit que la sexualité leur rappelle leur différence. Et cette différence, qui est la sexualité, elle dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pour reprendre un texte de Genèse 2. Et ceci est directement contraire au vœu fondamental du péché, l'autonomie et l'autosuffisance. L'homme qui veut être comme Dieu, il a donc honte de ce rappel visible en son corps qui ne se suffit pas à lui-même. Donc première altération entre les relations humaines. Deuxième altération, c'est entre la relation de l'homme à Dieu. De ce sentiment de honte surgit un autre sentiment, celui de la peur. Adam et Ève ont peur quand ils entendent le Seigneur venir. Ils se cachent derrière les arbres du jardin. La méfiance s'installe. Et comme nous l'avons dit, leur acte n'est pas une simple désobéissance d'un commandement qui se veut secondaire. Après tout, manger d'un fruit, ce n'est pas si grave. Mais non, leur désobéissance constitue non seulement une déception pour Dieu, parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance, mais une véritable révolte. Et c'est notre cas aujourd'hui. Nous voulons fixer nos propres règles, être nos propres dieux. Mais quand on y pense, une telle attitude nie le fait que nous sommes une créature en l'image de Dieu. En l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on a une existence que dérivée de cette image. Elle n'est pas l'original et elle n'est rien sans l'original. Le fait d'être image de Dieu souligne la radicalité de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Et donc, nous ne pouvons plus maintenir notre nudité en face de ce Dieu. La relation avec lui est brisée. L'homme perd ce qu'il avait de plus précieux, ce dont pourquoi il a été créé. La relation directe et naturelle avec le Seigneur. D'ailleurs, l'expulsion du jardin et tout le système légal de l'Ancien Testament viendra nous rappeler que l'homme est condamné à un non-accès presque total à Dieu. Donc l'altération de relations humaines, l'altération de la relation de l'homme avec Dieu, troisième altération, l'altération de la relation de l'homme à lui-même. L'homme est un être qui est fondamentalement et implacablement relationnel. Et on se trouve solitaire. L'homme se sent et se sait inadéquat. Il veut éviter que les autres et que Dieu le voient à sa réalité. Alors on passe notre temps à quoi faire ? On passe notre temps à nous cacher. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à retrouver cette paix qu'on avait lorsqu'on communiait harmonieusement avec notre semblable et avec Dieu. Le vide qui est en l'homme est difficilement comblé. Pascal, dans ses pensées, parle d'un gouffre infini qui ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu même. Et donc, chassé du paradis, l'homme devient, si on ose dire, un pèlerin sur la terre, en quête de refuge, en quête de sens. Résumons cette première partie. Lorsqu'il n'y avait rien à cacher, la nudité ne posait pas de problème. Mais une fois que le péché entre dans notre vie, la nudité devient insupportable. Et l'amour pur, innocent, devient inaccessible. Que de problèmes que de problèmes alors qu'il s'agit de résoudre. Comment réagissent Adam et Ève? Comment réagissent-ils? C'est notre deuxième partie. Face à cette prise de conscience de leur nudité, Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? On l'a dit, ils tentent de se cacher. Ils se cachent l'un de l'autre, ils se cachent de Dieu, mais aussi ils se cachent derrière des excuses. Premier point, ils se cachent l'un de l'autre. Leur première réaction, c'est de couvrir leur honte. Avec quoi? Avec des feuilles de figue. Ils espèrent ainsi cacher leur vulnérabilité. Et nous, quelles sont les feuilles de figue qu'on utilise pour cacher notre nudité? Est-ce que c'est notre diplôme? Est-ce que c'est notre parcours professionnel? Est-ce que c'est notre famille? Le fait d'avoir des enfants? Qu'est-ce qu'on utilise comme définition de qui on est et sans lequel on se considère comme rien? Quelles sont les feuilles de figue qu'on utilise? Est-ce que c'est la religion? Beaucoup utilisent la piété pour couvrir leur nudité, mais aussi pour se dire « on va pouvoir se racheter, on va pouvoir se justifier ». Mais au final, on tombe encore une fois dans le piège de l'autosuffisance. Même dans la religion, même dans la spiritualité, on peut se passer de Dieu. Et au final, toutes ces choses, elles peuvent être bonnes en soi. Mais elles ne sont que des feuilles de figue qui vont finir par faner, flétrir et sécher. Il va donc constamment les renouveler jusqu'à la mort, jusqu'à l'épuisement. Deuxième réaction, il se cache de Dieu. Il fuit la présence de Dieu par peur. Et comment est-ce qu'il se cache? Derrière les arbres du jardin. L'homme ne fuit pas Dieu juste par crainte. L'homme fuit Dieu aussi parce que Dieu ne l'arrange plus. Et c'est notre cas un peu encore aujourd'hui. On fuit Dieu pour couvrir cette gêne de savoir qu'il nous regarde et qu'il sait tout de nous. Encore une fois, Sartre donne l'exemple de quelqu'un qui est en train de regarder par la serrure d'une porte des gens dans une pièce. Jusqu'au moment où il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de le regarder par la serrure d'une porte, en train de regarder par la serrure d'une porte. Je vous ai perdu. Et si on tire le fil jusqu'à l'infini, on arrive par Dieu. Dieu est en train de regarder tout le monde par la serrure d'une porte, sauf que personne n'est en train de regarder Dieu en train de nous regarder par la serrure d'une porte. Et donc, Sartre conclut que ceci est inadmissible. Ceci est inacceptable. Et donc, Dieu ne peut pas exister. Mais si Dieu existe, et c'est notre croyance dans cette Église, il ne cessera pas d'exister juste parce que l'homme proclamera ou s'auto-persuadera qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, comme le texte nous le montre, il suffit à Dieu d'appeler pour que l'homme réponde. Vaine, vaine et pitoyable est notre tentative de fuite. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle sobrement, il n'est pas de création qui échappe à son regard. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et on se pose la question, comment est-ce que Adam a-t-il pu si rapidement oublier que Dieu est omniscient, que Dieu est omnipotent, alors qu'il communiait directement avec lui? Et la réalité, c'est que souvent le péché obscurcit et pervertit notre raison, à tel point que, et je cite Henri Blocher, « même les dons de Dieu » qui sont dans ce cas les arbres du jardin. Même les dons de Dieu, dons excellents, servent d'écran ou de bouclier contre lui. Troisième cachette. L'homme se cache derrière ses excuses. Face à un Dieu qu'ils ne peuvent pas éviter, la troisième réaction d'Adam et Ève est la fuite dans l'excuse. Ni l'un ni l'autre n'assume la responsabilité de ses actes. Et même Adam est prêt à jeter sa femme sous le camion pour s'en sortir. Et d'ailleurs, au passage, il est en train d'accuser Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset, au verset 7. « La femme que tu as mise auprès de moi. » Au final, c'est la faute de Dieu qu'il a mis la femme auprès de lui et c'est pour cela qu'il a péché. Il faut le faire quand même. Et le péché a pour effet de nier le péché. Et comme on voit dans notre texte, il y a un véritable engrenage du mal. La situation s'empire, il s'enfonce, tant qu'Adam ne reconnaît pas sa faute et demande pardon. Et Ève, dans tout ça, déjà, elle ne devrait pas être très contente d'Adam, mais elle accuse à son tour le serpent, qui représente Satan. Elle tente ainsi de cacher sa pleine responsabilité derrière les tentations de l'adversaire, comme nous le faisons aussi souvent. Oui, l'adversaire peut être puissant, rusé, et son marketing super efficace, mais c'est bien nous qui sommes maîtres de nos propres actes. Quelles sont les excuses ? Quelles sont nos excuses qu'on cherche pour couvrir notre nudité ? Sommes-nous prêts à écraser l'autre pour sauver notre peau ? On voit bien que les solutions d'Adam et Ève, ils sont inadéquats. Les solutions sont inadéquates, insuffisantes. Et au lieu d'arranger la situation, au contraire, elle l'aggrave et les entraîne dans un cercle vicieux du péché. Et Dieu dans tout ça ? Où est Dieu dans tout ça ? Et c'est notre troisième partie. Beaucoup, en lisant ce texte, se focalisent sur les sentences de Dieu, en se représentant un Dieu qui est juge, un Dieu inflexible, un Dieu dur, culpabilisateur. Et ce soir, je voudrais vous présenter l'autre face de la médaille. Premièrement, Dieu vient à notre recherche. Où es-tu ? Où es-tu ? Est la première question de Dieu. Il est évident que Dieu n'est pas en train de rechercher une information sur la localisation géographique d'Adam. Il le sait. Mais c'est plutôt un « où es-tu » thérapeutique, rempli de douceur, de compassion. « Où es-tu, Adam ? Dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. » Dieu arrive sur le lieu de la catastrophe, non pas comme un policier, mais plutôt comme un pompier, comme un infirmier. Et par son questionnement, Dieu est aussi en train de pousser Adam et Ève à prendre acte de leur faute, à la confesser, à assumer leur responsabilité. Pour les psys entre nous, c'est peut-être la première séance de psychologie thérapeutique de l'histoire. Deuxième action de Dieu, Dieu s'engage dans le combat, il s'engage dans la bataille. Après avoir obtenu ses réponses, il énonce sa sentence au serpent. Qu'est-ce qu'il dit au verset 15 ? Je mettrai, moi Dieu, l'hostilité entre toi et la femme. Et au passage, il prévoit la victoire finale. Celle-ci, la descendance de la femme, t'écrasera la tête. Dieu se positionne de notre côté. Il s'engage auprès de nous. Et la bataille finale sera vaincue, sera gagnée. Au terme d'une longue guerre qui va durer de génération en génération et qui va trouver son aboutissement par la venue du Fils de l'homme, de la descendance de la femme, Jésus, qui lui écrasera la tête du serpent. Troisième solution de Dieu, Dieu vient pour cacher notre nudité. Malgré la réaction et la réponse décevante d'Adam et Ève, Dieu intervient tel un père auprès de ses enfants. Pourquoi faire ? Eh bien, il vient et leur fabrique des habits à partir d'une peau animale. Il remplace les feuilles de figue par quelque chose de solide, par quelque chose de durable. Et il ne s'agit pas d'un retour en arrière. Dieu n'est pas en train de dire « c'est bon, on est quitte, on n'en parle plus, on passe à autre chose ». Non. La grâce de Dieu n'annule pas ce qui vient de se passer. Mais la grâce de Dieu vient couvrir le péché et sa misère. Comme nous dit l'apôtre Paul, là où le péché a foisonné, la grâce, comment ? Elle a surabondé. La grâce a surabondé. Et d'ailleurs, tout au long de la Bible, l'image biblique de la justification est celle d'un don, d'un habit nouveau. Et tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament était destiné à la justification, c'est-à-dire à la couverture temporaire de l'homme. Et ceci n'était qu'une préfiguration d'un sacrifice plus excellent, éternel, à venir. Celui de l'agneau qui, par son sacrifice, va couvrir entièrement et parfaitement notre nudité. Par lui, nous sommes à la fois parfaitement protégés et parfaitement révélés. On peut être nous-mêmes et être aimé pleinement, entièrement. La nudité n'est donc pas une fatalité. Il y a une bonne nouvelle, il y a une solution. Et cette solution, elle vient à travers le sacrifice de Jésus. Dernier point, Dieu nous ramène à Éden. Dieu ne met pas simplement le problème sous le tapis, il le prend entièrement en charge. Au dernier verset, d'ailleurs, en chassant Adam et Ève du paradis, il fait quoi ? D'ailleurs, il les chasse pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de la vie et donc pour qu'ils ne vivent pas dans leur état de péché pour l'éternité. Il les chasse et qu'est-ce qu'il fait ? Il place l'épée de la justice, une épée tournoyante pour barrer l'entrée à l'arbre. Et ceci veut dire que personne, absolument personne ne pourra revenir à Éden dans la présence de Dieu. Et le seul moyen d'y retourner, c'est à travers l'épée. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, personne ne pourra dire « Moi, je suis parfaitement juste, je peux passer à travers l'épée. » Le seul qui n'a pas péché, qui n'a pas considéré comme un butin à saisir d'être égal à Dieu, ben lui, il s'est laissé frapper par l'épée. Il s'est laissé frapper par l'épée de la justice divine. Jésus-Christ est mort sur la croix afin que par sa mort, nous ayons la vie. Donc, si le premier Adam nous a entraînés avec lui en dehors d'Éden, le deuxième Adam, lui, nous y ramène. Imaginez une équipe d'escaladeurs. Ils sont en position verticale, ils sont tous attachés l'un à l'autre par une corde. Celui qui est tout au bout glisse et entraîne tous les autres avec lui. Tous les autres sont suspendus, livrés à eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Et là, le premier de la file, il tient bon, il s'accroche. La corde commence à lui briser ses os, à lui transpercer sa chair. Mais il tient bon, il tire vers le haut, jusqu'à arriver à un endroit où il commence à tirer ses amis, un à un. Un à un. Le premier qui vient de glisser, c'était Adam. Et il nous a entraînés avec lui. Celui qui a tenu bon, celui qui nous a sortis de ce gouffre dans lequel on est, c'est Jésus. Je termine par une dernière citation d'Henri Blocher. Les chérubins se précipitent pour lui ouvrir la porte. À nous qui le suivons, vainqueurs par lui, il donne à manger de l'arbre de vie. Je vous invite à la prière. J'étendis sur toi le pan de mon vêtement. Je couvris ta nudité. Je te fis un serment. Je contractai une alliance avec toi. Déclaration du Seigneur Dieu. Et ainsi, tu m'appartins. Seigneur, il y a peut-être des gens ce soir qui se sentent nus, inadéquats, abandonnés. Seigneur, on prie à ce qu'ils puissent saisir ce don gratuit que tu leur donnes. Ce don d'un habit nouveau, d'un habit éternel. Et Seigneur, je prie aussi pour ceux d'entre nous qui se sentiraient pas nus, qui se suffiraient des différentes couches de feuilles de figue. Eh bien, Seigneur, je prie qu'ils prennent conscience que ces feuilles ne sont pas éternelles. Je prie, Seigneur, qu'ils prennent conscience que ton amour est parfait, que toi, tu nous aimes malgré notre nudité. Et merci, Seigneur, merci pour ce cadeau si précieux. Merci car tu es venu sur le lieu de la catastrophe et tu nous as couverts, tel un père qui couvre ses enfants. Au nom de Jésus, je prie. Amen.